Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à samedi, le kilo de pavé de saumon atlantique est à seulement 17,99€.
À ce prix-là, on va remplir les assiettes, le frigo et même le congélo.
Vous aimez le saumon, est-ce que je vois? Vous faites les stocks?
Oh, comme si vous n'alliez pas venir goûter un de mes plats.
Si vous insistez...
Eh ben j'insiste.
Auchan, avec plaisir. 17,99€, le kilo de pavé de saumon atlantique, élevé en Écosse ou en Norvège. Liste des magasins Auchan équipés d'un rayon marée traditionnel sur Auchan.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC. 7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pessé.
7h27, le retour de ce week-end des experts, la maison avec Christian Pessé. Tout à l'heure, on retrouvera notre mois du gaz. Pendant les semaines qui viennent, on va évoquer cette énergie qui a pas mal d'atouts, hein, Christian. Et on va commencer peut-être par l'histoire du gaz.
Hein, on va commencer un peu par l'histoire du gaz par rapport donc aux Français, depuis quand ils se chauffent ainsi et puis quelles sont déjà les précautions de base à prendre.
Mais avant tout cela, bien sûr, on va retrouver notre dossier de ce samedi matin et on va parler des maisons inondées.
Eh oui, les maisons ont été inondées dans plusieurs régions de France, il y a le sud-est, mais on a vu qu'en Bretagne, il y en avait eu également une nouvelle fois, des milliers de maisons ont été touchées, ont été inondées. Alors on va se demander quelles précautions prendre, quelles procédures pour déclarer à l'assurance, comment assainir, décontaminer, etc. Et nous avons avec nous Stéphane Cancella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant de la société Unipromotion, hop, comme on dit aujourd'hui, c'est ça?
Oui, hop, effectivement, qui est une contraction de Unipromotion, se lever, se remettre debout.
Ok. Vous êtes déjà venu d'ailleurs nous rendre visite il y a quelques années. Avant d'entrer dans le vif du sujet du traitement de la maison qui a été inondée, en quelques mots, je vais rappeler que une fois lorsqu'on a subi ce genre de dégâts dans des conditions aussi importantes que celles qu'on a vues dans le sud-est, la première des choses à faire, hein, c'est de surveiller la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Je ne cesse de râler sur le fait que à partir de ce moment-là, il faut 10 jours pour déclarer son sinistre à l'assurance.
Parce que si on dépasse le délai, c'est terminé.
Eh ben c'est terminé. Donc là, il faut être véritablement très attentif aux déclarations qui normalement sont affichées en mairie. Il faut vraiment surveiller ça comme le lait sur le gaz, hein, c'est le cas de le dire, parce que sinon on risque de se faire avoir. Alors à partir de là, de toute façon, il faut effectivement préserver tout ce qui peut l'être. Justement, on va en parler tout de suite, mettre la maison en sécurité pour que les dégâts ne s'aggravent pas. Il y a une obligation de maintien des lieux au meilleur état que cela peut être, et puis garder le maximum de choses, faire des photos, éventuellement mettre des objets qui ont été abîmés, des équipements, pourquoi pas la bâche dans la cour ou dans le jardin, si on est donc en maison individuelle, ce sont les bonnes précautions. Alors on va surtout parler technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement il faut faire pour préserver son bien et pouvoir ensuite le rénover. Alors il y a des sociétés, des entreprises spécialisées comme celle de Stéphane Cancella. Vous êtes donc spécialisé, qu'est-ce qu'on peut dire, dans la décontamination. C'est peut-être pas le mot, mais qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et dans les semaines qui vont suivre le retrait des eaux.
Nous sommes spécialisés dans l'après-sinistre. Ici, nous parlons d'eau, puisqu'il s'agit de inondations. Nous intervenons aussi, évidemment, après des incendies. Le mot de décontamination est plutôt utilisé en cas d'incendie.
Oui.
En cas d'inondation, nous parlerons plutôt d'assainissement, d'assèchement et de remise en état.
D'accord. Donc immédiatement, il faut faire quoi? On a l'eau qui s'est retirée, il y a de la boue, beaucoup de choses sont abîmées. Quelle est la première des choses qu'il faut faire?
Alors, en tant qu'assuré atteint par ces inondations, si on a la chance d'être informé, il faut te prévenir, remonter, mettre sur des des hauteurs, ce qui est sensible.
Comme ce qui a pu l'être déjà quand on a été informé de l'inondation, quoi.
Oui.
Les parpaings, mettre ses meubles dessus,
par
monter
exemple,
à l'étage, c'est ça.
Ça, des archives, éventuellement, et ça c'est vraiment préconisé par des informations, des compagnies d'assurance, couper l'électricité ou le gaz, bref, se mettre en sécurité, et puis surtout se mettre en sécurité soi-même.
Oui, alors l'eau, ça, pas l'eau, mais l'électricité, ça se fait, j'allais dire tout seul, parce que j'imagine que le compteur disjoncte normalement, donc, mais malgré tout, si ça n'est pas arrivé, ou avant que l'inondation arrive, il faut couper le courant.
Dans la mesure du possible, effectivement, couper le courant, c'est aussi se mettre en
dans
sécurité
le noir.
Soi-même.
Oui, mais c'est se mettre dans le noir aussi. Donc, il faut prévoir la nécessité aussi d'avoir de l'énergie. C'est les bougies, peut-être le plus simple encore.
Peut-être, effectivement, encore faut-il pouvoir les allumer si les allumettes sont sèches.
C'est une bonne lampe torche. C'est encore le meilleur. Hein. Attention aux groupes électrogènes. On a encore eu des accidents qui se sont passés. Les groupes électrogènes. Donc, ils fonctionnent effectivement avec de l'essence pour la plupart, les gros avec du fuel. Ne pas les faire fonctionner en milieu confiné, hein, y compris dans le garage, parce que on peut avoir des infiltrations de CO. Ça peut être extrêmement.
Donc, il faut le mettre dehors, c'est ça.
Il faut qu'il soit dehors, éventuellement avec un petit abri, mais il faut qu'il soit dehors. Alors là, maintenant, l'eau s'est retirée. Ben on va rentrer dans l'assèchement. Alors, comment vous asséchez une maison? Parce que si on la laisse comme ça, simplement à l'air libre, il va falloir des mois pour que ça soit asséché. Donc, vous avez des techniques, j'imagine.
Alors, effectivement, nous avons des techniques. Je dirais que la première technique, c'est d'intervenir très rapidement. Et d'ailleurs, nos mandants, que sont les compagnies d'assurance, insistent sur la réactivité que nous devons avoir, puisque on parle de biens, on parle de contenu et on parle de bâtiments. Ce sont deux choses qui se traitent distinctement. Le bien, comme le meuble, comme l'archive, comme le document, comme la chanifie, peuvent être sauvés, il faut aller vite. Mm-hmm. Le bâtiment, c'est des techniques d'assèchement que nous mettons en œuvre pour essayer de aller vite pour sauver. Autrement dit, un doublage BA13 avec de l'isolant,
plaque de plâtre,
par exemple, plaque de plâtre, peut être sauvé à travers des techniques d'insufflation d'air sec dans les isolants. Les planchers.
C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que j'ai un doublage avec de la plaque de plâtre, avec de l'isolant, par exemple, de la laine de verre, de la laine de roche. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire un trou en bas et puis en haut et vous allez injecter de l'air?
Alors oui, soit le trou existe parce que, par exemple, les prises murales permettent de passer, faire passer de l'air en surpression, soit nous créons effectivement des carottages qui sont ensuite remplis au moment de la rénovation, ce qui est facile et pratique.
On imagine aussi les gros déshumidificateurs électriques. Avec quoi vous faites quoi à ce moment-là? Vous enfermez la maison dans quoi? Dans une espèce de grosse poche? Comment ça marche?
Alors, en fait, il faut comprendre le principe de l'assèchement. Pour assécher un matériau, il faut assécher l'air qui est autour de ce matériau. En l'occurrence, l'air à l'intérieur de la maison. Pour assécher un air à l'intérieur d'une maison, il faut éviter de faire des courants d'air à partir de l'extérieur, puisqu'on ne ferait que essayer d'assécher l'air extérieur perdu. Donc, il faut effectivement fermer à partir du moment où les appareils sont en place. Mais tant que les appareils ne sont pas en place, il faut au contraire ouvrir et ventiler un maximum l'habitation.
Et alors, vos appareils, c'est quoi? C'est de grosses machines qui aspirent l'air
La transforment en eau.
D'accord.
C'est-à-dire que l'air...
Par condensation.
Par condensation, par exemple. Alors, il y a plusieurs techniques dans les assécheurs. Il y a des déshydrateurs, des assécheurs. Donc, tout dépend de la situation, tout dépend aussi de la température dans laquelle nous travaillons. Des appareils, de façon optimale, travaillent bien aux alentours des 20 degrés d'air ambiant.
Ah oui.
Donc, il peut...
Donc, l'hiver, c'est un problème.
Alors, l'hiver, nous chauffons. En plus d'assécher l'air des maisons.
Il faut combien de temps pour assécher une maison avec des moyens comme ça?
Tout dépend de l'impact de l'inondation. Autrement dit, si nous avons une inondation qui consiste en un passage rapide d'eau, c'est peut-être le cas lorsqu'il y a des coulées d'eau qui traversent des maisons,
mais ressort. Ça dure 48 heures, quoi. Alors que si effectivement ça baigne pendant un mois,
exactement,
c'est pas la même chose.
Donc l'assèchement peut aller de quelques jours à quelques semaines.
Quelques jours à quelques semaines. Mais en quelques semaines, c'est bon.
Oui, en quelques semaines, nous obtenons des matériaux qui peuvent recevoir des travaux de rénovation.
D'accord. Et vous faites ce genre de choses aussi ?
Nous faisons effectivement de la rénovation après les traitements d'assèchement.
Il faut qu'on soit à un niveau d'humidité de combien ?
Le support accepte entre 15 et 20% d'humidité.
Ah oui, c'est quand même très sec. Hein.
Avant de pouvoir assécher. Alors, en fait, le plus sensible sont les sols. Mmh. Puisque quand nous avons des matériaux vivants comme le bois,
ah oui,
qui ont subi des inondations, ce bois peut bouger, on appelle ça un plancher tuilé, qui se gondole. Hein. Donc effectivement, on doit assécher la chape, par exemple, qui est en dessous. Ouais. Et là, c'est très sensible.
Évidemment, tout ce qui est équipement, on va dire, électrique, électronique, électroménager, etc., tout ça...
Souvent, c'est
poubelle, non hein,
pas forcément, mais...
Pas forcément. Vous pouvez, par exemple, l'électricité qui est coupée dans une maison qui vient d'avoir une inondation, c'est parce qu'il y a de l'eau qui contribue à créer des courts-circuits. Bon, cette eau s'en va.
On la sèche.
On remet le courant et très souvent cela suffit.
D'accord.
Et c'est la même chose pour un appareil. Mais tout dépend du temps d'exposition.
Alors on a au téléphone qui nous attend, c'est Yves Ben Malek qui est directeur technique du bureau d'études Structure Ingénierie. Bonjour monsieur Ben Malek.
Bonjour monsieur Pessier et bonjour à tous vos invités, bonjour. Surtout à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin.
Alors vous, la question que je vais vous poser c'est est-ce qu'il est encore autorisé de reconstruire ou de construire en zone inondable? Parce que on se dit que la première des solutions ça serait d'éviter de construire dans ces zones. Est-ce qu'il y a une interdiction de reconstruire en zone humide?
Donc aujourd'hui, la possibilité de construire en zone inondable existe déjà, mais sous certaines conditions. Donc la loi aujourd'hui, il y a la loi numéro 95 du 2 février 1995, ouais, qui est relative au renforcement de la protection de l'environnement, a créé des plans de prévention des risques naturels.
Oui, c'est-à-dire, bien sûr.
Je m'explique. Donc aujourd'hui, donc on a trois zones. Des zones rouges qui a un risque très élevé.
Oui.
Aucun permis de construire pour construction nouvelle ne peut être délivré, même par dérogation.
D'accord, donc là, c'est classé, on ne peut plus construire.
Exactement. Après, on a les zones qui sont à risque moyen, où le permis de construire est assorti de conditions, et les zones qui sont sans risque, où le permis de construire est soumis aux règles des plans de locaux d'urbanisme.
Mais alors, dans une zone qui n'est pas une zone rouge, donc qui peut être malgré tout inondée, on pense notamment au bord de grands fleuves, comme au bord de Seine, au bord de Marne, etc.
Exactement.
Quelles sont les précautions, c'est-à-dire quelles sont les prescriptions constructives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir construire ou reconstruire une maison dans ces zones?
Techniquement, donc il y a plusieurs conceptions qu'on peut envisager, mais ça dépend de plusieurs paramètres aujourd'hui. Ces paramètres sont liés à la localisation, ouais, de la zone géographique, l'étude hydrologique, l'étude géotechnique qui entre en jeu et qui définit ces paramètres. Je peux citer par exemple la solution technique qui est liée à la plus haute eau connue, ce qu'on appelle le PAHEC, qui,
d'accord,
est lié à la hauteur de la crue, qu'aujourd'hui on peut surélever. Le niveau d'accès au bâtiment, c'est-à-dire aujourd'hui le niveau du bâtiment il est limité à la hauteur de la crue.
D'accord.
C'est-à-dire on accède à notre bâtiment avec une hauteur spécifique qui sera définie par l'étude hydrologique.
C'est quoi? C'est des espèces de construction sur pilotis, sur piliers? Comment on fait?
Et sur piliers ou sur des fondations qui sont spécifiées avec des poteaux, mmh, et le plancher sera suspendu.
D'accord.
C'est pas basé sur le bon sol, exactement.
Ok, donc là, on va éviter d'avoir un garage avec un sous-sol, peut-être. Hein. Ça évitera que ça se remplisse.
Exactement, parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il y a deux paramètres qui définissent en fait la conception dans une zone inondable. Le premier paramètre, c'est la vitesse de l'eau, qui est gérée par le drainage par des matériaux spécifiques.
Ouais.
Le deuxième critère, c'est le critère que je viens de citer, c'est la hauteur de l'eau connue. Exactement.
Ok. Le surcoût d'une construction comme ça, on peut l'évaluer à peu près, non?
au, Aujourd'hui, on peut, parce que ça dépend de plusieurs paramètres.
Bien sûr.
Comme je viens d'évoquer le paramètre géotechnique hydrologie. Aujourd'hui, je peux dire, d'après notre expérience en structure ingénierie, on dit que le coût, c'est entre 15% et 70% du coût supplémentaire.
Ah oui, c'est large. C'est une sacrée fourchette.
Ça dépend de plusieurs paramètres, comme je viens d'expliquer, par rapport à l'étude géotechnique, par rapport à l'environnement et de la localisation de l'ouvrage.
Très bien, merci monsieur Ben Malek. Je rappelle, vous êtes directeur technique du bureau d'études Structure Ingénierie.
Merci monsieur, bonne journée.
Merci beaucoup. Christian, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Évidemment vaste qui permettrait. Enfin, on pourra en parler pendant encore plusieurs minutes, mais voilà, il fallait, on va dire, survoler tous les aspects de ces problèmes d'inondation que les Français ont pu rencontrer il y a quelques jours.
Tout à fait. Merci Stéphane Cancela, donc d'Uni Promotion.
On va revenir dans un instant, Christian, avec notre nouveau rendez-vous. Durant quelques semaines, on va s'intéresser au gaz avec donc cette chronique le mois du gaz, et puis on retrouvera aussi vos coups de cœur et bien entendu vos questions d'ici là. N'hésitez pas, vos questions bricolage maison déco au 32-16. On est là jusqu'à 8h avec Christian Pessé. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.